Qu'est-ce que c'est que ces gens qui nous accusent de... Et alors, il dit cette phrase qui n'est certainement pas équilibrée, j'imagine, mais qui révèle, en tout cas, un état d'esprit de nos pionniers. À copier ou à pas copier, ça, je vous laisse libre, mais en tout cas, ça révèle ce qui se passait. Il dit, qu'est-ce que la review a à faire avec les écrits de Sir White? Son mari. Et il dit, pendant 5 ans, il n'y a pas eu un mot d'Ellen White dans la review. Alors on nous accuse de parler d'Ellen White. Qu'est-ce que la review a à faire avec les visions d'Ellen White, dit-il? Bon, je ne suis pas sûr que ce soit sage d'écrire ça. Parce que ça pourrait donner des contresens et des découragements à lire Ellen White. Donc, moi, je ne pense pas que ce soit un email de Dieu qui lui ait dit de dire « Cher James, maintenant, je voudrais que tu écrives cette phrase dans la review. » Il l'a dit. Ça me paraît déséquilibré. Ceci dit, c'est un témoignage de ce qui se passait. Et à la conférence générale, parfois, des hommes éminents, comme Alonzo Jones, par exemple, qui va petit à petit dégénérer, mais en tout cas, à l'époque où il était vraiment dans la pleine communion avec les adventistes, dit carrément devant tout le monde, dans la conférence générale de 1893, « Frères et sœurs, on va continuer ce que j'ai commencé il y a quelques jours avec vous. Je pourrais très bien vous citer le meilleur chemin, Jésus-Christ, conquérant pacifique, et il en cite quelques-uns comme ça, et je refuse de faire cela. » Alors, c'est dans l'esprit de ce que vient de dire Hélène. Alors, il y a quantité comme ça d'hommes de Dieu qui aime Ellen White et qui vraiment à cette époque-là se nourrissent de sa plume, mais qui sont très pudiques à en parler en public. C'est curieux. À un moment donné, dans le moment difficile de 1888, Ellen White a souvent été instrumentalisée, récupérée par des groupes qui se disputaient, et chacun voulait avoir le mot d'Ellen White pour régler la question, un peu comme un arbitre théologique. Elle ne supportait pas ça. Et à un moment donné, elle a perdu un manuscrit. Alors ils viennent le voir, mais t'as écrit quelque chose, enfin, on a lu ça. Et c'est sur cela qu'on est en train de se disputer. Est-ce que tu pourrais... Alors, elle a cherché pendant 2 ans. Et après, elle écrit, pour quelle raison elle a perdu le manuscrit? Comment se fait-il que j'ai perdu le manuscrit et que pendant 2 ans, je n'ai jamais pu le retrouver? Dieu avait là une raison. Il voulait que nous nous tournions vers la Bible. Et que ce soit dans les Écritures que nous trouvions les fondements de notre foi. Les témoignages, c'est un autre texte, hein, mais qui va dans le même sens. Les témoignages ne devraient pas être placés. Donc elle s'auto-appelle Sir White, c'était une façon de parler à l'époque. Hein. Les témoignages de Sir White ne devraient pas être placés au premier rang. Les témoignages ne doivent pas prendre la place de la parole. Fondez vos positions en vous appuyant sur les Écritures et ne justifiez les points que vous affirmez être vérité qu'à partir de la parole révélée de Dieu. 1890. Un autre aspect très crucial pour Ellen White, c'est ce que les pionniers appelaient la « present truth », parfois traduit « vérité présente », un mot que j'évite. À votre santé. Et qui voulait dire 2 choses très importantes. Present truth, j'ai traduit par vérité contemporaine. La première chose que ce mot veut dire est la plus connue. C'est l'idée que, mais il y en a une deuxième qui est moins connue, et c'est celle-là que je voudrais parler. La première, c'est cette idée que, dans l'histoire d'Israël, de l'Église primitive, du christianisme jusqu'à l'adventisme, Dieu avait un message particulier pour une époque. Vous avez souvent entendu ce concept qui est parfaitement biblique. Donc un accent particulier. Ça ne veut pas dire que ce moment-là, on ne dit plus le reste. Ça, c'est aussi une tentation de certains. Hein. Alors on va parler des spécificités de cette époque et on se tait sur des choses peut-être encore plus essentielles que la spécificité. Ce n'était pas du tout l'intention des pionniers de dire ça, mais il y avait cet accent. Deuxième accent de la present truth, c'est cette idée que on n'a pas toute la vérité. Et que la recherche de la vérité, c'est quelque chose qui est constant, une marche. D'où des textes qui paraissent parfois un petit peu surprenants chez nos pionniers, qui parfois sont des émerveillements d'avoir découvert des vérités, qu'ils appellent des vérités, et puis d'autres textes de cette trempe-là qui nous disent « Ouh là là, ouh là là, ouh là là, ouh là, attention quand vous dites que vous avez la vérité, et que vous la possédez surtout. » La vérité, ce ne sont pas des concepts, c'est Dieu la vérité. Hein? Donc, qui possède Dieu? Il ne se laisse pas enfermer dans une boîte, ni même dans 28 croyances fondamentales. Hein? Dieu est la vérité, Jésus est la vérité. Alors, Ellen White, comme les pionniers, nous dit que notre devoir est de ne pas penser que nous avons toute la vérité. Que nous connaissons l'essentiel de la foi, que nous pouvons donc nous reposer sur ce savoir. Non, dit-elle, en 1890, la vérité, c'est une réalité en marche. Donc ça bouge, c'est dynamique, c'est pas statique, c'est pas quelque chose qui est en granit, et puis voilà, on a ça, et puis c'est fini. Appelant à de constants progrès. Et là, je voudrais rendre hommage à un frère qui s'appelle Ronald Grayville, un de mes collègues du White Estate, qui aujourd'hui n'est plus dans le White Estate, il travaille dans une université comme professeur, mais qui, à Dallas, en 1980, quand les 27 premières croyances ont été votées, était d'accord avec ces 27 croyances, mais il a eu peur à un moment donné, un soir, il s'est dit, oulala, est-ce que par hasard, nous n'aurions pas avec ce texte un jour la tentation de faire un credo avec ça? C'est-à-dire quelque chose de définitif qui ne bougera jamais. Parce que nos frères et sœurs pionniers étaient allergiques au credo, totalement allergiques. Pour eux, c'était un signe d'apostasie que de mettre sur papier des textes qui disent « voilà comment nous croyons et ça ne bougera jamais ». Ils étaient allergiques et on le comprend. Ces gens-là adoraient Dieu le dimanche et passent au repos sabbatique. S'ils avaient à l'époque, au tout début du millérisme et même au tout début de l'adventisme, mis qu'il faut adorer Dieu le dimanche et que c'était voté, machin, etc., credo, vous imaginez les dérapages et puis les casse-têtes de bah, « on va changer ça », etc. Et puis il y a quantité d'autres choses. Hein. La nature de Daniel 8,14, le retour du Christ ou un début de jugement. Et puis quel genre de jugement? Un jugement qui est là pour informer Dieu parce qu'il faut quand même aider ce Dieu à prendre sa décision. Il n'est pas capable tout seul de savoir qui sera sauvé ou pas. Donc on va faire un jugement. Alors il y a aussi là eu des développements. On a grandi dans notre compréhension de la vérité. Et donc les pionniers pensaient que ce serait comme ça jusqu'au retour du Christ. Et même plus loin, même dans le ciel, qu'on va s'enrichir et que ce sera un développement. Donc une allergie radicale à tout credo. Et ce frère en 1980 se dit... Il faudrait écrire un texte qui serait l'ouverture de ces croyances fondamentales pour protéger l'Église contre ce dérapage de fabriquer un credo avec ses 27. Et c'est donc devenu le préambule. Vous connaissez les 27 croyances et les 28 maintenant. Vous connaissez peut-être moins le préambule et ce n'est pas de votre faute, frères et sœurs. Il existe même sur les certificats de baptême ce préambule. Alléluia. Mais dans le livre jaune qui s'appelle « Ce que croient les adventistes », il a disparu. Et vous savez pourquoi? C'est peut-être involontaire, hein? Loin de moi de renier ce que j'ai dit ce matin, hein? Moi je n'accuse personne, je regarde comme les historiens de l'adventisme qu'il a disparu. Il y a eu 3 éditions anglophones de ce préambule, enfin de ce livre, pardon. Dans les 2 premières éditions anglophones, manque de bol, c'est ces éditions-là que nous avons traduites en français. Eh bien, il n'y a pas de préambule. Dans la 3e édition anglophone, parce que les frères ont dû se faire tirer les oreilles, alors le préambule revient. Timidement, hein, très timidement. Il est juste publié au milieu de l'introduction. Mais il n'a pas sa place d'honneur, parce que le préambule a été voté à Dallas en 1980 avec autant d'autorité que la première croyance, la deuxième, etc. Donc en fait, le préambule est notre 29e croyance fondamentale, qui nous dit, eh bien, tout ce que nous croyons là, il est possible que ce soit provisoire. Hein? On a pensé comme ça, on pense comme ça. Maintenant, le texte le dit, l'Esprit Saint peut nous conduire à reformuler différentes choses ou peut-être à faire des changements là. Soyons disponibles à ce que le Saint-Esprit nous dira et alors en conférence générale, eh bien, nous procéderons à certains changements. Pas de préambule dans ce que croient les adventistes jusqu'à la 3e édition. Et dans la 3e édition, un petit entrefilé au milieu de l'introduction. Il aurait dû être publié comme la croyance fondamentale 1 jusqu'à 28, c'est-à-dire sur la page de gauche, la croyance fondamentale, 5-6 pages pour en faire un commentaire biblique, et puis 2-3 pages de notes de bas de page. Voilà pourquoi Richard Lehman, quand il a publié son livre l'année dernière, donc je ne me souviens plus comment est-ce qu'il s'appelle... C'est un texte où Richard prend quantité de textes d'Ellen White pour chacune de nos croyances fondamentales. Hein? Je ne me rappelle plus le titre, pardonnez-moi. Alors, il m'a montré ce livre et puis il m'a dit « Est-ce que tu aurais, Jean-Luc, quelques autres citations d'Ellen White ?» Et je lui ai raconté ce que je viens de vous raconter. Il m'a dit « Ouh là 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 !» Alors, il a rajouté tout un chapitre sur le préambule, justement. Alors, la maison d'édition m'a dit qu'elle allait rajouter le préambule parce que c'est notre 29e croyance fondamentale. Une croyance qui dit, bien, Dieu peut nous amener à des changements. Nous ne sommes pas là en train de fabriquer un credo. C'est ce que nous croyons. Et nous nous battons pour prêcher ce message. Mais nous sommes infirmes, nous sommes des êtres humains limités. Nous ne sommes donc pas Dieu. Et nous ne voulons pas, nous, adventistes, penser que notre lecture de la Bible, c'est la Bible. Quand Jean-Luc lit la Bible, ce n'est pas Dieu qui est en train de lire la Bible. C'est un être humain infirme qui lit la Bible, avec l'aide de Dieu. Mais nous devons le dire, ça, que c'est avec l'aide de Dieu que nous lisons la Bible. Mais nous ne devons pas dire que notre façon de lire la Bible est la Bible. Hein? J'espère que je ne vous parais pas mystique quand je vous dis ça. Mais c'est la réalité de ce qu'on appelait la present truth. Une intégrité très profonde de nos pionniers. Malheureusement, après la mort d'Ellen White, cet accent sur la present truth va être beaucoup plus atténué. Parce que l'Église adventiste d'Amérique du Nord va subir une influence des milieux ultra-conservateurs protestants fondamentalistes qui, eux, justement, pensent que c'est une hérésie de pouvoir changer d'opinion. Et eux multiplient les professions de foi, mais qui ne sont pas seulement des professions de foi, ce sont des déclarations granitiques. Et il est impossible de changer un iota de ces déclarations-là. Pour plein de raisons, frères et sœurs, nous ne sommes pas des fondamentalistes. Nous n'avons même pas la même théologie de l'inspiration que eux. Eux pensent que les mots, les adjectifs, les points d'exclamation, les guillemets, tout est inspiré par Dieu comme un email. Et nous pensons que c'est le rédacteur qui est inspiré par Dieu, pas les mots. Hein? Alors, il y a une quantité de choses, mais l'Église, une partie, soyons honnêtes, une partie de l'Église adventiste nord-américaine dans les années 20, 30, 40, 50 a subi une influence, a été affectée. Et à cette époque, c'était un courant majoritaire qui est devenu ensuite minoritaire dans les années 50, 60, 80, 90, 2000, 2006. Et parfois, ce courant qui était majoritaire et qui est devenu minoritaire nous accuse aujourd'hui d'apostasie. Et ce courant minoritaire, on le retrouve parfois dans des groupuscules en marge de l'Église aujourd'hui et qui parfois nous tire dessus avec des lance-pierres. C'est ainsi que s'est passée une partie de notre histoire de l'Église adventiste. Pour protéger l'Église contre tout cela, les frères pionniers mettaient l'accent sur la present truth. Ellen White, en fait, finalement, contrairement à une idée reçue, Ellen White a toujours fait partie du courant progressiste dans l'Église adventiste, non pas conservateur, à tel point que si vous lisiez l'anglais, comme c'est le cas de beaucoup d'entre vous, et que vous veniez avec moi regarder le CD-ROM tout à l'heure sur mon ordinateur, et qu'on met ce mot « conservative », comme ça, on met conservative et on va voir tout ce qu'Ellen White dit. À chaque fois, ce n'est pas 99% des cas, c'est 100% des cas, c'est toujours négatif. Toujours, toujours. Pour elle, quelqu'un de conservateur, c'est quelqu'un qui n'est pas ouvert à l'Esprit Saint. Quelqu'un qui s'enferme dans des définitions, dans des concepts, des doctrines, et qui n'est pas ouvert à ce que Dieu lui dise. Écoute, c'est bien, mais là, 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 il y a des choses à changer, voire peut-être tout. Hein? C'est intéressant. Alors, dans certains milieux qui sont contemporains d'Ellen White, être conservateur, c'est une vertu absolue angélique. Alors, on retrouve l'opposé chez elle. C'est intéressant, ça. Je vous ai dit que c'était une femme très hospitalière. Et aussi de ses deniers. Contrairement à ce que certains disent, qui nous critiquent, nous, Ellen White n'a pas toujours gardé les copyrights de ses publications. Si elle l'avait fait, qui d'entre nous pourrait le lui reprocher de toute façon? Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, tu publies, tu as le droit à des deniers. Elle ne l'a pas fait par contre, elle a souvent partagé, et donc elle a sponsorisé la faculté de médecine, enfin les études de médecine de John Harvey Kellogg, donc le créateur des Corn Flakes. Hein? Qui était un homme qui, bien sûr, a quitté l'adventisme à la fin, tout au moins l'église adventiste, pardon, mais qui est toujours resté en sympathie avec Ellen White et qui a toujours, toujours jusqu'à la fin, accepté que cette femme était inspirée par Dieu et prophète même de Dieu. C'est intéressant ça, parce qu'il y a quelques-uns qui quittent l'adventisme et qui se sont imaginés que le prophétisme c'était ça, 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 puis après ils enlèvent tout et ils balayent tout. C'était pas son cas. Un petit mot concernant un pionnier qui s'appelait Wagner, qui était le papa du Wagner de 1888. Parce que là, ça nous montre un aspect de la générosité d'Ellen White assez inconnu, en tout cas pour moi. Et des études ont été faites à ce sujet, concernant la manière dont Ellen White comprenait la discipline ecclésiastique. Donc la manière d'accompagner nos frères et sœurs qui parfois chutent, ne sont pas en harmonie forcément éthique ou dogmatique avec l'adventisme. Alors parfois Ellen White lutte contre les autorités de l'Église, y compris la conférence générale, pour appeler à de la clémence. Elle a toujours été en deçà de la rigueur qui se pratiquait dans l'Église à son époque. Quand certains responsables américains en Europe étaient là, à Bâle, etc., et voulaient radier tous les jeunes adventistes qui portaient l'uniforme de soldat, Ellen White disait, qu'est-ce qui se passe? Je suis opposé à ça. On ne va pas radier ces jeunes. Mais vous imaginez le désastre, etc. Et puis, quantité d'autrefois, c'était le cas. Alors ici, on a affaire à un responsable de l'église adventiste qui est en adultère. Très surprenant l'attitude d'Ellen White. Mais cet homme va guérir. Et ça, c'est fantastique. La compassion de cette femme et son accompagnement, un accompagnement qui n'a pas toujours été facile pendant des années. Parce que cet homme, tout en étant en adultère à répétition, hein, personne ne croyait dans ses repentances, parce qu'il retombait autant de fois qu'il se repentait. Mais cet homme, quand même, dans sa folie, de temps en temps, voulait donner des leçons. Alors elle lui dit, et c'est écrit dans les lettres de Kéak, dans ses correspondances, écoute, à ta place... Moi, vu ton cas, je serais peut-être la dernière à vouloir accuser les autres sur certainement d'autres sujets. Mais en tout cas, à ta place, je serais plus réservée. Alors elle lui tire les oreilles très sévèrement parfois pour son arrogance. Mais elle l'a toujours accompagné et cet homme est guéri quand même. Et il est devenu évangéliste parce que c'est ce dont il rêvait, alors que la conférence générale voulait lui enlever les lettres de créance. Et donc elle s'est opposée à ça. Très, très, très vertement. Et je vais vous lire un extrait d'une correspondance entre Ellen et George Butler, qui était président de la conférence générale dans les années 88. Donc là aussi, hein, ça a été tendu entre Ellen et George sur des questions qui touchent au légalisme. Hein. Heureusement qu'Ellen White était là, frères et sœurs, en 88. Hein. On se serait peut-être sorti du légalisme beaucoup plus durement et avec des désastres si l'Esprit de Dieu n'avait pas inspiré cette femme. À chaque fois qu'il y avait une crise, un dérapage possible, elle était encore là pour donner des conseils. Pendant la crise fondamentaliste des années 20 à 30, elle n'était plus là. Et alors on est devenu plus vulnérable, alors qu'on avait pourtant la parole de Dieu, mais on était plus vulnérable. Elle écrit à George, qui voulait lui régler les choses comme du papier à musique, hein. Alors, il a fait ça, c'est ça, un matheux, quoi. C'était pas quelqu'un qui était un artiste et qui allait dans la dentelle. Non, non, tac, 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 tac. Alors, elle lui dit, Georges, c'est pas comme ça la vie chrétienne. Quelquefois, il n'y a pas de texte biblique pour pouvoir nous dire quel chemin il faut prendre. Et moi, je n'ai pas forcément reçu un message de Dieu pour dire ce qu'il faut faire. Alors, tu risques de prendre un mauvais chemin, c'est vrai. Peut-être que Dieu ne te dit que c'est ce chemin-là qu'il faut prendre et toi tu vas prendre celui-là. Tu risques de te tromper. Mais elle lui dit, Georges, si tu prends le mauvais chemin, mais en étant miséricordieux, alors tu as fait la volonté de Dieu. Si nous fautons, et quand elle dit fautons, c'est pas to make a mistake. If we err, elle dit, si nous errons, let it be on the side of mercy. Que ce soit du côté de la miséricorde, pas sur le chemin de la condamnation et de la sévérité. C'est magnifique ce texte. J'ai besoin, moi, de ce texte aussi, des fois dans l'éducation de mes enfants. Ce n'est pas marqué comme sur un ordinateur. À chaque fois que j'ai un conseil à dire à mes filles ou à mon fils, alors voilà, où est le verset biblique qu'il faut là, comme une mitraillette ou quoi. Et non, je n'ai que ma conscience et la prière pour connaître la volonté de Dieu. Je peux donc me tromper avec mes enfants, avec l'Église, avec vous. Je ne suis pas infaillible non plus. Et elle me dit, eh bien mon petit Jean-Luc, tu peux te tromper, c'est vrai, mais si tu as recherché la miséricorde, eh bien, tu es du bon chemin, du bon côté. Tu es dans la grâce. C'est fantastique, ça. Ce qui n'est pas naturellement un conseil pour ne pas chercher plus loin. Hein? Mais en tout cas, localement, ponctuellement, elle nous encourage à penser que, eh bien, c'est pas clair pour nous. Hein? Mais nous sommes avec Dieu, tout en ayant fait le mauvais choix. Avec intégrité, certes. Ça, c'est donc un texte que je vous ai montré ce matin, un encouragement d'Ellen White à cultiver l'habitude de parler positivement des autres, à voir leurs erreurs le moins possible et à louer le caractère des gens. Ça, c'est aussi un accent très fort, surtout dans le livre Éducation. Ellen White ne pense pas que les adventistes doivent être des clones dans leur façon de penser. Sinon, à quoi sert l'école du sabbat, hein? Si on revient tous le sabbat matin pour dire la même chose, moi je vous conseille de faire la grâce matinée, hein? Ce sera plus rafraîchissant, hein? Ça fera beaucoup plus de bien. L'école du sabbat, nos échanges, la lecture de la Bible, c'est là aussi, bien sûr, pour nous réconforter, mais aussi pour nous enrichir, nous faire avancer, nous interpeller, modifier jusqu'à ce que nous croyons. Et Ellen White nous encourage à avoir une lecture de la Bible personnelle. Pas copier ce que les autres font. Elle dit que l'éducation des enfants consiste à faire d'eux des thinkers, des penseurs, qui pensent par eux-mêmes et qui ne répètent pas ce que les autres disent. C'est intéressant ça. Qui ne répètent pas ce que papa et maman disent, peut-être. L'éducation va jusque prendre ce risque, mais aussi dans l'Église. Alors elle dit cette phrase qui est sur le prospectus que je vais vous laisser là. Si j'oublie, vous me faites penser. Je voudrais vous remettre deux documents. Donc un prospectus qui montre un peu les travaux du centre de recherche Ellen White et mes coordonnées aussi pour que nous puissions garder le contact. Il y a donc ce très beau texte là. Ne permettez à personne d'être votre cerveau. Ce personne, ça peut être le président de la conférence générale. Ça peut être Jean-Luc. De penser à votre place, de chercher à votre place. Facile à retenir la date, 11 septembre. 1894, attention, pas 2001. Justement, cette générosité d'Ellen White va jusqu'à encourager une lecture plurielle de la Bible dans le milieu adventiste. Et ça, c'est fort aussi, ça. Un jour... Alors qu'on m'avait demandé d'organiser des petits moments spirituels à l'Assemblée de Fédération de Toulouse, dans le sud de la France, donc il y a 4 ans, j'avais mis sur l'écran un texte d'Ellen White sans dire le nom de l'auteur, pour que les gens devinent après. Et il y avait un cadeau qui était promis pour celui qui le dirait le plus vite. Eh bien, ils ont eu un mal fou, à dire que la citation que vous allez lire là, parce qu'elle leur paraissait tellement nouvelle, tellement inimaginable avec le portrait mythique que peut-être certains se faisaient d'Ellen White. Alors ils m'ont dit des noms européens, américains, mais toujours d'aujourd'hui et toujours des hommes, hein, mais pas Ellen White, jusqu'à ce que quelqu'un téléphone chez lui et puis attrape le CD-ROM et puis voilà. Alors il a eu le cadeau quand même, avec les forceps, mais il a eu le cadeau. Si une personne fait une erreur en interprétant un passage de la Bible, pensez-vous que c'est ce qui entraînera divergence, manque d'unité? Bien sûr que non. Il est impensable d'affirmer que l'unité de l'Église consiste à regarder les textes de l'Écriture de façon identique. Vous imaginez l'ouverture d'esprit qu'il y a là? Alors après, elle donne la clé pour l'unité dans l'Église. Ce n'est pas que nous soyons des clones théologiques, c'est beaucoup plus profond que ça, l'unité de l'Église pour elle. Il n'y a qu'une seule chose qui peut faire grandir l'unité de l'Église. Rechercher l'esprit d'indulgence que possédait le Christ. Quand je vous disais que, certes, il y a des textes d'Ellen White qu'elle n'a jamais écrits et qui sont des inventions, mais aussi des textes qu'elle a écrits et qui font partie de l'essence de son message, mais qui sont ignorés, alors il y en a quelques-uns cet après-midi que je partage avec vous. 1892. Le mot anglais qui est traduit là ici, indulgence, est un mot très riche, qui signifie tolérance, indulgence, patience, forbearance. C'est un mot qu'elle emploie très fréquemment. Elle aime ce mot. Et souvent, pour qualifier Jésus avec ce mot-là, c'est fantastique. Alors, il veut dire tout ça. Alors, il a bien fallu choisir un mot, alors on a mis indulgence, mais c'est encore plus fort que ça. Ellen White était parfois accusée en milieu adventiste et en milieu non-adventiste de dénigrer les chrétiens non-adventistes en disant que, ma foi, ce sont des païens, des gens qui ne sont pas de véritables chrétiens. Il y a une confusion terrible ici, parce que certains lecteurs d'Ellen White ont lu certains textes où Ellen White, en effet, comme je le suis du reste, moi je ne cache pas, très sévère avec le passé, intolérant, l'Inquisition, le Vatican, des doctrines qui font peur, etc. Et qu'on retrouve aussi, parfois même dans le protestantisme. Ellen White n'est pas toujours très tendre avec Calvin, parce qu'elle a le souvenir que des choses se sont passées. Et à la fin de son chapitre sur Calvin, dans la tragédie des siècles, elle dit que ça a été un serviteur de Dieu, hein, que Dieu s'est servi de Calvin. Néanmoins, mais elle dit, il y a des choses qui n'ont pas été dans sa vie. Hein. Elle dit aussi de Luther des choses courageuses. Mais quand Ellen White se met à parler des individus protestants, catholiques, et même des non-croyants, vous allez voir, c'est très 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 bousculant ce que je vais vous montrer là. Asseyez-vous bien, attachez vos ceintures. Il y aura des turbulences dans le vol pendant les minutes qui vont suivre, frères et sœurs. Respirez un bon coup. Quand elle parle des chrétiens non adventistes, elle dit des choses qui m'ont beaucoup surpris et qu'il faut savoir. Tous ces chrétiens ne sont pas forcément des gens qui sont dans l'esprit de l'Inquisition, du Vatican et de je ne sais pas quoi. Il y a aujourd'hui d'authentiques chrétiens. Elle ne dit pas des belles âmes qui un jour, s'ils entendent le message des trois anges et se font baptiser, deviendront des chrétiens. Ils sont d'authentiques chrétiens dans toutes les églises, sans excepter la communion catholique romaine, qui, avec honnêteté, croient que le rendez-vous du sabbat de Dieu, c'est le dimanche. Alors, qu'elles disent ça, c'est déjà magnifique. Mais regardez la dernière phrase. Dieu accepte la sincérité de leurs intentions et l'intégrité de leur foi. C'est exactement l'attitude de Jésus devant le centurion, la femme syrophénicienne et quantité d'autres. Quand Jésus, à Nazareth, quand ça se passe très mal, dans Luc 4, dit son message en disant que, elle était très courte cette prédication, hein, c'est très courte, hein, ça avait le mérite d'être très clair. Bien voilà, c'est accompli. Hein, il lit et c'est accompli. Mais après, il cite des personnes. Et c'est très bousculant, les personnes que Jésus cite. Aucune chrétienne, aucune juive, que des étrangers. Et Jésus, dans son ministère, c'est provoquant certes, à valoriser des non-chrétiens et des non-juifs. Alors, le bouquet, c'est le centurion, hein, mais il y en a eu d'autres que Jésus a valorisés. Au milieu des peuples, des tribus, des langues, le Seigneur voit des hommes, des femmes, qui prient pour recevoir davantage de lumière et de connaissances. L'honnêteté de ces personnes les fait aspirer à une vie meilleure. Alors maintenant, elle va parler des païens. Ça c'est le bouquet, ça. Bien que plongés dans l'abîme du paganisme, elle ne dit pas où il y a deux, trois petites bricoles païens dans leur comportement. L'abîme du paganisme, et sans aucune connaissance de la loi écrite de Dieu, donc en fait, elle parle comme Romains chapitre 2, ici, ou de Jésus, son fils, elles ont montré de plusieurs manières à quel point la puissance de Dieu travaille sur la pensée et la personnalité de l'être humain. Et elle dit cette phrase, pour laquelle on l'a beaucoup accusée à cette époque-là, le plan de la rédemption est suffisamment large pour embrasser le monde entier. C'est donc dans Prophètes et Rois, j'ai mis la version Prophet and Kings parce que j'ai un petit peu corrigé la traduction qui était un petit peu parfois vieillotte. Des gens ont accusé Ellen White d'universalisme parce qu'il y avait des milieux fondamentalistes qui l'accusait de trop parler de la générosité de Dieu, de l'amour de Dieu, au point que ça donnait l'impression qu'il pourrait y avoir des non-chrétiens qui seraient sauvés, quoi. Alors elle ne mâche pas ses mots parce qu'elle y croit à ça. Elle y croit. Elle ne pense pas, comme dans certains milieux fondamentalistes, que pour pouvoir être au ciel, il faut avoir la bonne déclaration de foi. Alors ce frère, ah mais Jean-Luc, tu me parles de ça, mais ce frère, a-t-il professé le nom de Jésus-Christ en chair? Et puis, a-t-il été... vous voyez, enfin, des toutes sortes de déclarations doctrinales sur Jésus, sur ci, sur ça. Comme si le salut provenait d'une adhérence, finalement, à un credo. Elle dit qu'en brusquant les catholiques, avec dureté, nous faisons faux chemin, nous nous écartons de notre route. Nous ne devrions pas agir ainsi. Parmi les catholiques, il y a beaucoup, dit-elle, d'hommes et de femmes qui sont des chrétiens très consciencieux et qui marchent dans toute la lumière qu'ils ont reçue. Dieu agira en leur faveur. Ils recherchent à vivre en faisant du bien à leur prochain. Alors ça, c'est merveilleux parce qu'elle dit qu'il y en a beaucoup et qu'ils sont des chrétiens consciencieux. Après, elle dit la raison pour laquelle ce sont des chrétiens consciencieux. Pas parce qu'ils ont une bonne théologie. Ne censurez pas, ne condamnez pas. Soyons très prudents. Alors attention, parce que ça bouscule là, ce qui est écrit là. Soyons très prudents et ne faisons pas le procès de ceux qui, devant Dieu, sont moins coupables que nous. C'est dur à entendre ça, c'est dur à entendre. Qu'il y a des centurions dont Dieu admire la foi parce qu'il ne l'a jamais vue, même en Israël. Dieu a beaucoup d'enfants dans les églises protestantes, et beaucoup d'autres, a large number, dans l'église catholique. Ces croyants désirent davantage obéir à la lumière et tirer le meilleur parti possible de leur connaissance qu'un grand nombre d'adventistes, observateurs du sabbat, qui eux, ben, ne marchent pas dans la lumière. Et c'est pourtant des gens qui théologiquement ben, ne sont pas politiquement corrects, mais des enfants de Dieu. Et là donc, un chef-d'œuvre que vous allez lire et qui se trouve pourtant dans un texte très très connu, le livre Jésus-Christ, sur des non-croyants qui seront sauvés et qui sont des enfants de Dieu, tout en étant des non-croyants. C'est impressionnant ça. Très longtemps, j'ai jamais cru que ce serait possible ça. Jésus-Christ, c'est certainement le chef-d'œuvre d'Ellen White. La pensée qui reflète le plus Ellen White, c'est Jésus-Christ. C'est vraiment le summum de l'écriture d'Ellen White. Et c'est justement dans ce texte-là qu'on a ce que vous allez lire maintenant. Elle parle du jugement et elle est en train de parler de Matthieu 25. Matthieu 25, donc j'ai eu faim, j'étais nu, j'étais en prison. Sur le mont des Oliviers, le Christ a décrit la scène du jour du jugement, du grand jour du jugement à ses disciples et il leur a montré que tout ne reposerait que sur un seul point. Lorsque les nations seront rassemblées devant lui, il n'y aura que deux types de personnes. Leur avenir éternel, écoutez bien ça, c'est vraiment un grand chef-d'œuvre. Leur avenir éternel sera déterminé en fonction de ce qu'ils auront fait ou négligé de faire pour lui dans la personne du pauvre et de celui qui souffre. Celles et ceux que le Christ valorise au jour du jugement n'auront peut-être pas eu une grande connaissance théologique, mais ils ont chéri les principes qui ont animé la vie du Christ. Ils ont été une bénédiction pour leur entourage. Même parmi les païens, il existe des personnes animées d'un esprit de gentillesse. Alors, peut-être le mot païen est un mot un petit peu vieilli, mais si vous voulez non-croyant à la place, c'est pas trop différent dans sa pensée. Parmi les païens, il existe des personnes qui adorent Dieu tout en l'ignorant. Vous savez faire ça, vous ? Adorer Dieu alors que vous ne savez pas qui est Dieu. C'est d'une ouverture extraordinaire ce qui est écrit là. Hein ? Adorer Dieu alors qu'il... Il n'existe pas dans ma vie, mais il existe dans mon comportement parce que je le sache ou pas, le Saint-Esprit m'anime et transforme mon existence. La lumière ne leur est jamais parvenue par le moyen d'êtres humains, mais ils ne périront pas. Leur attitude est une évidence que le Saint-Esprit a touché leur cœur. Dieu les reconnaît alors comme ses enfants. Ben moi, je demande pardon à Dieu parce que longtemps, je n'ai pas cru ça. Sans doute parce que ma foi était trop dogmatique, trop légaliste. Elle a aussi beaucoup milité contre le racisme, Ellen White. Il existait à l'époque d'Ellen White des réseaux qui passaient d'ailleurs par Battle Creek, c'est intéressant, pour aider des frères et des sœurs, ou futurs frères et sœurs, ou déjà frères et sœurs, mais d'autres dénominations, donc noirs, à fuir au Canada. Alors Ellen White a beaucoup encouragé toutes ces choses-là, un peu comme chez vous, Belges, et chez nous, Français, et d'autres pays, en cachette, de façon souterraine, des frères et des sœurs. Et je loue Dieu parce qu'il y a eu des adventistes aussi qui ont milité pour faire fuir des juifs, en Suisse notamment, ou dans d'autres pays. Et alors un jour, elle a appelé l'église adventiste à la désobéissance civile. Parce que les États-Unis avaient publié une loi qui lui paraissait anti-biblique, catastrophique, qui demandait à tous les citoyens américains, lorsqu'un noir était en fuite de son maître, de le capturer, et s'il manifestait de la résistance, vous connaissez la suite. Alors elle dit, ce n'est pas possible ça. Lorsque les lois humaines entrent en conflit avec la parole de Dieu et sa loi, c'est à cette dernière qu'il nous faut obéir, quelles qu'en soient les conséquences. La loi de notre nation exige que nous livrions à son maître un esclave en fuite. Désobéir est un devoir. Et il nous faut assumer le contre-coup de la violation de cette loi. L'esclave est la propriété d'aucun être humain. Il y avait des églises évangéliques qui se disputaient beaucoup sur la question de l'esclavage et qui se sont séparées, qui ont fait des schismes, les baptistes du Sud par exemple. Grande scission sur cette question-là. Ellen White a beaucoup, 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 beaucoup milité. Son fils aussi, Edson, qui est devenu donc un spécialiste donc, de l'accompagnement et de l'évangélisation dans le sud des États-Unis. Il avait même acheté avec ses deniers, parce que nos frères de la conférence générale ne croyaient pas en lui, tout en étant le fils d'Ellen White. Bon, il avait eu une adolescence un petit peu patachon, c'est vrai, mais enfin, il s'était converti quand même, grâce à maman notamment. Et il avait acheté un bateau dans lequel il y avait laboratoire de photos, salon, salle à manger, cuisine, salle de conférence, fauteuil, pas Coca-Cola, je sais pas, mais en tout cas, c'était super sympa dans ce bateau. Et il travaillait dans les fleuves là du sud des États-Unis pour prêcher l'évangile et secourir aussi les pauvres frères et sœurs noirs qui étaient donc désemparés dans la souffrance. Alors maman, Hélène, a été très fière de son fiston, surtout à cause de l'adolescence qu'il avait vécue, loin de Dieu. Et un jour même, Hélène, eh bien, a interpellé la conférence générale parce que les pasteurs noirs étaient moins bien payés que les pasteurs blancs. Alors elle a vraiment secoué les frères de la conférence générale en leur disant « Vous êtes dans le péché ». Et elle n'était pas tendre avec eux. Eh bien, ils n'ont pas changé d'avis. Alors elle a dit « Ah bon ?» Ah bon, 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 vous ne changez pas d'avis. Eh bien, je ne paye plus ma dîme. Je ne vous encourage pas à faire ça, frères et sœurs. Hein? D'abord parce que vous n'êtes pas des prophètes, tandis que c'est Dieu qui a demandé à ça à Ellen White de le faire. Je ne suis pas sûr qu'à chaque fois que je ne suis pas d'accord avec le comité, moi, Dieu me demande de faire ça. Je ne suis pas prophète. Deuxièmement, elle a tout restitué son argent lorsqu'ils se sont convertis, les frères de la conférence générale. Ça n'a pas duré très très longtemps, parce que le bras de fer d'Ellen White a fini par gagner quand même. Hein, le prophète de l'Éternel qui ne paye pas sa dîme, c'est pas très 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 joli ça, dans une communauté chrétienne. Hein, donc, cette femme, elle employait des façons de faire très très fortes, hein, pour justement encourager l'Église à résister à cet esprit raciste, profondément raciste, pardon, qui existait aux États-Unis à cette époque-là. Et malheureusement, ça n'a pas disparu. Heureusement chez nous, nous sommes parmi des églises où ça se passe le mieux. Pas de façon parfaite, mais le mieux. Comment devenir un adventiste à cette époque-là? Vous êtes raciste? Vous êtes esclavagiste? C'est pas possible. Nous devons faire savoir autour de nous que nous ne tolérerons et n'accueillerons aucun esclavagiste au milieu de nous. Ah, tu veux te faire baptiser? Ah! Alors, tu vois ça comment, toi, le problème des Noirs, des Blancs et de l'esclavage? Tu es d'accord avec l'esclavage? Peut-être que tu es un maître, même, peut-être. Alors, il faut abandonner tout ça. Si tu es un maître, eh bien, tu n'es plus un maître. Et si tu n'es pas un maître, mais que tu es favorable à l'esclavagisme, eh bien, nous, on ne t'accueille pas. Donc, il va falloir encore faire quelques années d'études bibliques, mais c'est pas possible. On ne peut pas devenir adventiste à cette époque-là tant qu'on est esclavagiste. Ellen White risquait sa vie en disant des choses pareilles, vous savez. Et elle a parlé beaucoup des droits de l'homme, de la dignité de l'être humain. Alors, je vais un petit peu vite pour pas que nous soyons trop longtemps ensemble. Regardez, pour ceux qui arrivent à lire du fond, les mots en bleu. L'amour de notre semblable est un domaine sacré. Et elle parle donc à la fin du texte, là, en 1897, de la dignité dont le Créateur a investi les droits de l'homme. Human rights. C'est pas une invention du XXe siècle, ça. La dignité humaine, les droits de l'homme. Ça, c'est dans le livre Éducation. Il y a un très beau paragraphe là-dessus. Et elle dit que toutes ces choses-là ont été laissées de côté comme si c'était des choses pas très intéressantes, des mythes, des rêves. Et là, c'est un texte très très beau. C'est donc un texte par lequel je termine cet exposé avant un moment de discussion ensemble. Enfin, un texte, deux, trois textes sur la mission et la mission finale. L'évangélisation, si vous voulez, le message communiqué au monde entier avant le retour du Christ. Elle dit des choses très, très révolutionnaires. Notamment que dans l'évangélisation, notre premier devoir, c'est de montrer aux gens que nous sommes d'accord avec eux. Ça, c'est intéressant, ça. Le petit Jean-Luc, lui, quand on lui demandait qu'est-ce que c'était un adventiste, il disait, il ne va pas à la messe le dimanche, il n'a pas de piercing dans les oreilles, ni dans les pieds, ni dans le nombril. Il écoute du Mozart plutôt que de la techno. Et puis, il paye sa dîme, et puis il mange pas de cochon. Hein? Mais il croit que Jésus va revenir bientôt. Voilà comment j'ai débarqué dans l'adventisme. Vous auriez eu peur de moi, hein? Je peux vous dire, vous auriez eu peur. Vous auriez fui. Soyez très attentifs à ne pas favoriser les préjugés, à ne pas fermer les cœurs par votre façon de présenter la vérité aux personnes. Montrez aux gens combien vous êtes d'accord avec eux sur tous les enseignements qu'il vous est possible de présenter de cette façon. Qu'ils réalisent que vous les aimez profondément, qu'aussi loin que cela est possible, vous désirez rester en harmonie avec eux. Un autre texte dans le ministère de la guérison, qui est un livre extrêmement important. La méthode du Christ pour sauver les âmes, c'est la seule qui réussisse. Il se mélangeait, il se mêlait aux hommes pour leur faire du bien, leur témoignant sa sympathie, les soulageant et gagnant leur confiance. Alors ça, c'est quelque chose qui tient à cœur pour elle. Pouvoir prêcher une différence, quelque chose de spécifique, quelque chose d'identitaire, quand les gens entretiennent avec nous une relation de confiance. Alors là, un grand chef-d'œuvre par lequel je termine, au niveau des textes d'Ellen White, qui se trouve à la fin du livre Parabole, et dans lequel elle parle de la mission finale. Qu'est-ce que les chrétiens contemporains du retour du Christ vont devoir annoncer dans les derniers moments de l'histoire de l'humanité? Alors ça, c'est très important, parce que vous allez voir que tout ce qu'elle dit n'est absolument pas spécifiquement adventiste. Et pourtant, elle dit, c'est ce message-là qu'il faut prêcher. La manière de vivre des 10 jeunes filles, vous savez, là, donc la parabole des 10 jeunes filles, des 10 vierges, la manière de vivre des 10 jeunes filles... Oh là, mes pauvres, vous ne voyez plus rien, là. Ça va ? Illustre l'expérience de l'Église contemporaine du retour du Christ. Le monde que l'on a trompé sur l'identité de Dieu se trouve enveloppé de ténèbres. L'humanité est en train de ne plus rien savoir du caractère de Dieu. Il a été mal compris, interprété de travers, et ça, elle en sait quelque chose. Il est aujourd'hui nécessaire qu'un message venant de Dieu soit proclamé, que ce puissant message apporte un éclairage qui transforme l'être humain et le sauve. C'est le caractère de Dieu qu'il faut faire connaître. L'éclat de sa gloire, de sa bonté, de sa miséricorde et de sa vérité doit se répandre au milieu de l'obscurité qui entoure le monde. Les derniers rayons de lumière d'un Dieu rempli de miséricorde, l'ultime message de grâce que Dieu attend que nous partagions avec nos contemporains, c'est de leur révéler son caractère d'amour. Dieu appelle ses enfants à faire connaître sa gloire par leur façon de vivre, au travers de leur personne. Dieu attend que les chrétiens révèlent ce que la grâce de Dieu a fait pour eux. Se déverse généreusement. Se traduit par de bonnes œuvres dans un esprit authentique de service pour Dieu qui vient du fond du cœur. Qu'est-ce que je n'ai pas dit comme ânerie sur l'huile dans la parabole des 10 vierges, en allant farfouiller dans plein de textes bibliques avec une concordance et tout ça. Alors je disais des choses comme si l'huile dans tel et tel passage, ça pouvait avoir la même signification partout, vous savez. Bon, c'était un petit défaut de jeunesse, mais ici, quand elle parle de l'huile en termes d'amour, donc de compassion, de générosité, c'est très respectueux finalement de toutes les paraboles qu'il y a dans Matthieu 25, qui toutes systématiquement parlent de service. Intéressant et de service de compatissant. Hein. Donc en fait, sans s'en rendre compte peut-être, mais inspiré par Dieu, eh bien, cette interprétation de l'huile est très fidèle à la pensée du Christ, me semble-t-il. Voilà le dernier message pour elle. Alors, ça n'a rien d'adventiste spécifiquement, mais c'est l'essence du christianisme. Ellen White, en 1909, prend la parole pour la dernière fois. Elle est invitée à la conférence générale. Elle fait des milliers de miles pour ça, alors qu'elle est très âgée. Elle quitte la Californie pour aller à la conférence générale. Et elle prêche un jour, et à la fin de la prédication, elle s'assied. Et elle se relève après, et elle prend une Bible, et elle dit, « Frères et sœurs, voici le livre que je vous recommande. » C'est très humble cette phrase, pas un mot de ses écrits. Alors, elle n'est pas en train de dire « ne me lisez plus hein ». Enfin, c'est beau. En 1914, un an avant de mourir, donc c'est le dernier écrit d'Ellen White cette fois-ci. Le dernier écrit. Après 1909, elle ne parle plus en public. Après 1914, elle n'écrit plus. Mais elle écrit donc ce que je vous ai dit à cette sœur qui est torturée, parce qu'elle n'a pas l'assurance du salut et le pardon de Dieu dans son cœur. Et le 9 juillet 1915, Ellen White nous quitte. Et William est donc là. Il ne ronfle pas à ce moment-là, lui. Parce que sa maman va mourir et sa maman lui confie sa dernière parole. Je sais en qui j'ai cru. Ce sont les derniers mots d'Ellen White. Elle m'a appris beaucoup de choses, cette femme. Elle m'a fait beaucoup réfléchir sur l'essence de la pensée adventiste. Elle m'a aidé à comprendre que finalement, il y a des choses très profondes dans l'adventisme qui sont d'ailleurs en même temps l'essence du christianisme. Et elle m'a fait comprendre aussi que dans le message adventiste, il y avait des bénédictions, des outils fantastiques, le sabbat, réforme sanitaire et que sais-je encore, d'autres enseignements, mais qui sont aucun d'entre eux des fins en soi, mais qui sont des choses fantastiques, des bénédictions extraordinaires de Dieu au service de quelque chose de beaucoup plus grand encore que l'adventisme. L'adventisme, c'est ce que j'ai dit au pasteur l'autre jour pour les provoquer un petit peu, l'adventisme n'est pas le centre de l'adventisme. C'est Dieu le centre de l'adventisme. J'observe le sabbat, pas parce que j'observe le sabbat, pas parce que Dieu veut que j'observe le sabbat, point. J'observe le sabbat, je ne mange pas de cochon, j'attends le retour du Christ, je paye ma dîme, je suis fidèle à ma femme. Ça ne veut pas dire que je suis un homme parfait, mais je n'ai qu'une femme. En tout cas, et Dieu me demande de l'aimer davantage que je l'aime, on est bien d'accord. Mais toutes ces choses que nous vivons pour obéir à Dieu, c'est pour nous apprendre à mieux aimer Dieu, à être en meilleure relation avec Dieu et aussi avec nos contemporains, ma femme et et tous nos contemporains. L'adventisme est au service de ça. L'adventisme est un outil d'optimisation de la relation, finalement, avec Dieu et avec les êtres humains. Et je remercie Dieu parce que Ellen White m'a beaucoup aidé à comprendre cela. Que finalement, être chrétien, que finalement, être adventiste, c'est être chrétien avant d'être adventiste. Voilà pourquoi je mets cette petite phrase. L'adventisme est une spiritualité extraordinaire. Sinon, je ne serais pas là. Au service de quelque chose qui la dépasse. Ça, c'est le texte qui résume le centre de recherche Ellen White, qui est aussi sur ce prospectus que je vais vous donner maintenant. Un texte de l'apôtre Paul qui nous dit que le prophétisme, dans son essence, construit, encourage et réconforte. Et je crois que le Seigneur a envie que nous puissions lire notre amie Hélène dans cet esprit pour recevoir cette construction, cet encouragement et ce réconfort. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et votre hospitalité. Que Dieu vraiment vous remplisse de cette tendresse et de cette compassion qu'il a pour nous et qu'il souhaite que nous partagions dans l'Église, dans la famille et sur cette terre. Amen.
Amen.